Le retour. Deuxième jour du sixième mois de l'an 2325. Highlands. Alerte de sécurité. J'ai appris que le dôme de la ferme Lalande a encore été malmené par le crépuscule solaire, toujours au même endroit. Trim s'est exprimé de façon mesurée, mais j'ai senti son angoisse. J'ai vérifié que les devis de sécurisation sont bien à la disposition de la commanderie et je les ai mis à jour. La situation est urgente, je le répète. Il faudrait changer la dalle fissurée et chercher pourquoi elle s'est fissurée en allant sonder les soubassements du dôme. Le rover et moi sommes repartis vers la cité de Mut. J'ai repris prudemment quelques fils de mes dialogues intérieurs qui se croisent et se multiplient à l'infini. Il paraît que les voyages enrichissent l'esprit. Celui-ci a complexifié ma pensée. Ce n'est pas très confortable. Les roches se bousculent sur notre route, renversées, fracassées, énormes. Les pâles collines des mers sont encore loin. Certains ubacs très noirs font comme des manques dans la réalité, et les adrets déroulent des gris variés. Cette marqueterie brisée roule d'un bord à l'autre de l'horizon, dominée par les pitons et les crêtes des murs qui accrochent la lumière de la Voie lactée. Les pitons luisent d'un feu blanc très doux, semblables à d'immenses veilleurs brodés d'étoiles, et les rampes des crêtes ressemblent à des lèvres de géants, humides d'une salive céleste. Troisième jour du sixième mois de l'an 2325. Highlands. Comme le rover franchissait l'isthme de Gadel, j'ai aperçu au loin une transhumance de bulldozer. Il paraissait peint à l'encre noire sur la roche grise, et la poussière de leur sillage tendait autour d'eux des voiles scintillants. J'ai admiré comment la distance transformait en fin navire gréé de gaz ces grands monstres aux mufles poussifs. Je suppose qu'il s'agit d'une commande pour Jaxa depuis Omagad. Jaxa est une cité bâtisseuse. Nous allons bientôt aborder Korolev et ses splendeurs. Je déroulais dans ma tête une description minutieuse du paysage quand j'ai saisi qu'elle n'avait pas de raison d'être. J'ai compris que je m'adressais à un auditeur intérieur. S'il est qui, sans doute. J'ai cessé net. Les vastes cratères de la Lune, comme les vertes collines de la Terre, ont été bien assez chantés par d'autres que moi. J'ai vidé mon esprit de toutes ces voix. Huitième jour du sixième mois de l'an 2325, océan des tempêtes. Le rover et moi avons passé le plateau oriental, Evelius, Pakpapatapon, et franchi la frontière du salut à la Terre, petite rainure d'ongles bleus sur l'horizon. Nous admirions les longs panaches du cratère Irimaldi dégazant au sud quand le rover a fait une embardée. L'onde d'une explosion a rebondi entre les parois et pulvérisé le duraglace autour de moi, tandis qu'une roue d'étincelle tournait follement sous mes pieds. Le rover s'est arrêté et il est resté là, penché sur une chenille. Je suis descendu alors que le rover lançait une série d'autotests. Nous avons évalué les dégâts et il a été catégorique. Je suis bon pour le recyclage. Mon châssis est fendu, l'empattement est faussé, trois suspensions sont en fuite, et j'ai le treillis en dentelle. Regarde, il y a des éclats de titane sur 3 mètres. Le temps que je fasse le tour, le rover s'était mis en mode veille prolongée. Je l'ai regardé, posé de guingois au bord d'un cratère comme un oiseau blessé. Souvent, les oiseaux blessés ne luttent pas, ils se résignent. Ils restent allongés, attendant le prédateur qui les achèvera. Mais il n'y a pas de prédateur à la surface. Le destin de mon rover est de retourner au régolithe d'où il vient par la force des siècles et des radiations. Ou plus rapidement, si une météorite le percute. Pour ma part, j'aurais besoin de quelques soins, mais ça peut attendre. Je suis restée à contempler le rover le temps que la poussière de l'explosion retombe autour de nous et sur nous. Elle a formé un voile très fin, pâle et duveteux sur l'or poli de ses flancs et les brèches noires de ses blessures. C'est un bon rover. Il a trouvé sans faillir la piste de Louge alors qu'elle ne faisait pas partie de son itinéraire. Et c'est un rover particulier. Il n'a pas hésité un instant à se lancer sur la piste de Louge. Il l'a fait à ma demande, d'accord, mais enfin, il s'est montré capable de sortir de ses routines. Étant désormais très éloigné des miennes, j'ai une sensation de proximité décisionnelle avec lui. Je l'ai réveillé.
Je te rappelle que mes autotests ont obtenu des résultats déplorables.
Je vais essayer une réparation de fortune si tu veux bien. Elle a échoué. Je manque des éléments les plus nécessaires. J'ai tout juste réussi à brider sa chenille abîmée. Il s'est remis en veille prolongée. Peut-être, quand les radiations auront suffisamment érodé ses commandes, peut-être qu'il se réveillera en mode dégradé. Il deviendra un rover fou, patinant sans fin dans la poussière sur sa chenille restante. J'ai décidé de ne pas le laisser ici. Si je le laissais, j'aurais la sensation d'un gâchis. Ce serait un de plus. Nous avons encore 1500 km à parcourir. J'ai arrimé le rover au bout d'un câble que j'ai lacé autour de mon torse. Nous marcherons 6 jours, puis nous nous abriterons du soleil. À la nuit solaire suivante, nous bouclerons le reste du trajet. Le rover ne pèse pas plus de 80 kilos, et je suis bâti pour dessoucher des prairies sous une gravité 6 fois supérieure. J'ai demandé au rover de rester en fonction. Il faut qu'il soit prêt à enclencher ses freins dans les pentes et à m'aider de sa chenille intacte dans les virages. Et puis il faut qu'il identifie l'origine de l'accident, c'est-à-dire qu'il aille bien au-delà d'un simple autotest. De plus, ça me fait un interlocuteur pour mes envolées lyriques. La Terre en croissant grandit à l'horizon, et j'ai 1000 vers en mémoire pour ces instants-là. Ses têtes au-dessus des cratères et des pitons glacés, la Terre, comme un accent sur un « et ». Étape 1. Jusqu'au cœur de l'océan des tempêtes. J'ai décidé de faire une pause technique toutes les 4 heures. La progression n'est pas trop rude. Le rover m'assiste avec ses freins quand la déclivité est forte, et notre piste est damée par des transhumances séculaires. Je pourrais faire à vue un historique de l'évolution des chenilles de transport lunaire à travers les âges, si l'exercice présentait le moindre intérêt. De place en place, on aperçoit même les marques de chevrons laissées par les tout premiers engins. J'ai tenté de raconter au rover quelques anecdotes concernant ses ancêtres, comment les premières résilles de pneus étaient faites de cordes à piano, un antique instrument de musique. Mais le rover n'a pas la moindre idée de ce qu'est un son ou un ancêtre. Nous voilà au cœur de l'océan. Notre trace serpente derrière nous, entre les vagues figées au creux desquelles brillent les mini-colas. De petits bancs d'overboard rôdent alentour, curieux. Un trio de fouisseurs nous fait des niches, jaillissant de ci, de là, sous mes pas. Le gris d'astres intense a cédé la place au doux bleu terrestre. C'est une autre ambiance. Tandis que je le traîne sans trop de difficultés, le rover expertise chacun de ses composants et chacune de ses commandes. Il conclut. « Rien dans ma configuration d'usine ne peut expliquer l'explosion dont j'ai été victime. Donc il faut envisager une cause extérieure. » Étape 2. Océan des tempêtes. Nous voici sous le cratère Kepler. À la pause, écartant les lambeaux d'or mâchurés du revêtement du rover, j'ai sondé sa plaie aussi loin que j'ai pu. Ce n'est pas commode, l'essentiel de l'explosion ayant eu lieu sous le châssis. Et ce n'est pas très parlant. Mes connaissances en mécanique sont limitées. Celles du rover sont plus précises, mais bornées à lui-même.
Ça, quand même, je peux te dire que c'est un élément halogène.
Ce truc-là ?
J'ai retourné entre mes doigts un fragment calciné. Le rover a insisté.
Jamais eu ça dans mes composants. Je peux même te dire que ce truc-là n'a aucune fonctionnalité autre qu'explosive. C'est une perle d'allumage, un fragment de détonateur.
En fouillant plus avant, j'ai prélevé une partie de la charge qui n'avait pas détonné. Il s'agit donc d'une explosion délictueuse. Ma perplexité est grande. Piéger un rover n'est pas une chose inouïe, mais il faut que le rover transporte au moins une cible de choix. Aussi, je me demande ce que nous avons commis, le rover et moi, ou lui ou moi, pour mériter une pareille attention. Le rover a évalué la charge totale.
Elle aurait dû nous pulvériser tous les deux. Seule une défaillance d'une partie du système de mise à feu et la présence d'une épaisse couche de régolithe sous mon châssis au moment de l'explosion ont permis que nous en sortions partiellement intacts.
Le jour solaire menace, et il est difficile de trouver à se protéger du soleil au beau milieu de l'océan. J'ai donc fait exploser la charge restante. Le rover et moi avons profité d'une douche de poussière qui devrait suffire. Nous avons attendu ensemble les premiers feux et la marée thermique. Le rover et moi avons cadré les faits.
Le piégeage a eu lieu chez le gardien des glaces, probablement pendant ton absence à la Cité Franche, alors que j'étais en veille prolongée. Mais par qui ?
Par un bot servant les débiteuses de glace. Ils ont l'habitude des explosifs. Mais à la demande de qui ? J'ai vite fait le tour de mes activités avant et pendant mon séjour chez le gardien des glaces. Elles étaient toutes non pas délictueuses, mais hors de mes attributions. J'ai sauvé, puis caché Louge, un acte qui peut être qualifié de 1000 manières selon le code invoqué. J'ai parlé au gardien des glaces, de droit, de symbiotique, d'agronomie et de la terre. Rien d'important. J'ai fait un voyage incognito à la Cité Franche, Et enfin, j'ai mené quelques analyses d'ADN et d'atmosphère. Je suppose qu'une attaque aussi peu recommandable qu'une explosion est signée par la Cité Franche. Mais pourquoi ? Libérer un chien d'une arène est illégal, mais les francs humains ne s'encombrent pas de loi. Cela dit, la vengeance est une de leurs activités préférées. Et même si les propriétaires d'Alta Pémé et de Tatlan n'ont rien à voir là-dedans, le seul fait de pénétrer dans la Cité Franche peut être qualifié d'acte hostile qui mérite la mort. Cependant, les francs citadins font les choses de façon ouverte. Ils ne s'embarrassent pas de discrétion, et fomenter un attentat est une délicatesse qui ne leur ressemble pas. La piste des Pac-Papatapon me semble plus plausible. Après tout, ceux-ci sont venus très concrètement à Etken, chez le gardien des glaces, pour enlever Louge. Ils ont pu envisager que j'essaierais, avec le rover, de sauver Louge du tube sous-lunaire où ils l'avaient envoyé crever et décider de nous en empêcher. Cependant, le gardien des glaces m'a décrit des hommes pressés et pressants. Cette image ne cadre pas avec la préparation d'un attentat de cette sorte, qui est froide et minutieuse. Entrer dans le système de commande des débiteuses de glace pour contraindre un servant à mal agir ne se fait pas depuis un scaphandre dans un rover, au milieu des chaos de la route. Ou encore, c'est d'avoir demandé au serveur historique de la cité de Mut un relevé de l'atmosphère terrestre qui a éveillé je ne sais quel ennemi. Cette hypothèse-là ne repose sur rien de sérieux. Ces spéculations ne menant nulle part, j'ai entretenu le rover de choses et d'autres. Tapis sous la poussière, nous étions plongés dans une pénombre grise tandis que le grand soleil blanc virait lentement au-dessus de nos têtes. Nous avions tout le temps pour dialoguer, même si j'ai fait l'essentiel des frais de la conversation. Je lui ai parlé des textes qui se présentaient à mon esprit, et ses sorties aléatoires m'ont étonné moi-même. « Connais-tu cet homme, Shigosier Obioma, dont les mots surgissaient de sa bouche comme des tigres ou en coulaient comme de l'eau ? Et sais-tu quelle différence Mariam Abba voit entre les rêves et les souvenirs ? Si les rêves meurent en traversant les ans et les réalités, mes souvenirs sont le sel de ma mémoire. » Cette phrase m'a entraîné dans une longue méditation. Je ne pense pas que c'ait été le cas du rover. Ses souvenirs ne dépassent pas la précédente révision et ses rêves ne vont pas au-delà de la prochaine. Je lui ai aussi parlé de la fièvre aspic. Je lui ai rapporté le récit d'une épidémie des temps anciens. Au printemps de la troisième année Kiayéou, une maladie pestilentielle ravagea l'Empire. Du Qiangnan aux deux capitales, ce fléau terrible se répandit partout. M'aventurant dans des images exotiques, je lui ai raconté la scène. Un grand fleuve d'eau qui coulait autrefois entre des rives herbues, quelque part très loin de là, sur la terre. Un matin, un navire, une sorte de rover flottant un peu semblable d'allure au vaisseau des pirates de Korolev, s'était fendu de part en part sur la scène. Ce navire était chargé de pommes.
Des pommes ?
Il a fallu que je décrive ces pommes, rondes et rouges. Les pommes s'en étaient allées au fil de l'eau et la rivière en était tout empourprée.
Les pommes flottent vraiment ?
Il est probable que oui. Étape 3, qui finira au bout de l'océan des tempêtes. J'ai repris la longue marche vers la lande. Mes pieds vont et viennent sur le régolithe. Mes articulations vibrent et grippent, une brume de poussière roule de part et d'autre de notre piste et fait trembler les touffes de Minicola. La voie lactée tourne au-dessus de nos têtes. L'océan déroule son tapis clair dont les vagues sont plissées d'ombre bleue. Ce paysage invoque des vers de Césaire. N'y eut-il dans le désert qu'une seule goutte d'eau qui rêve tout bas ? Dans le désert n'y eut-il qu'une graine volante qui rêve tout haut ? Désert, désert, j'endure ton défi blanc à remplir sur la carte voyageuse du pollen. Le rover et moi, et tous les robots fous autour de nous, nous sommes des pollens cheminant dans un désert vaste comme le monde, aussi vieux qu'il est immense, et nu et sans vie dans la splendeur du vide. Étape 4. Nous passerons bientôt entre Apollo 12 et Landsberg. Pour rythmer la marche, j'ai commencé à scander les vers libres et désolés du Paradis perdu, puis je suis passé à d'autres anglais. Autour de moi, les dunes de l'océan des tempêtes se déroulent à l'infini, et je me demande si elles ressemblent au sable de la Libye ou au sable monotone, qui recouvre les membres brisés d'Ozymandias. Cette alternance d'ambiance mentale façonne mon esprit comme une falaise sur laquelle viendrait se briser une houle d'images. Dans mon dos, le rover, atteint d'une autre fuite, s'est remis en veille. J'ai aperçu un petit robot fou qui jouait avec un objet de forme caractéristique, un crâne humain. Je n'ai pas réussi à rattraper ce grumgeur. Il s'est enfui parmi les sables en emportant son bibelot. Mais le rover a accepté de fouiller localement avec sa chenille restante. Une fouille rapide m'a permis d'identifier 8 corps adultes, sans scaphandre et momifiés par le vide, avec de fortes adhérences de régolithes. Ils portent des vêtements que je date d'un siècle, ou un peu plus. Comme les lambeaux cassaient sous mes doigts, j'ai suspendu là mes investigations. J'ai identifié une chevelure blonde et une noire, toutes deux crépues, une tresse peut-être rousse, une blessure occipitale qui a dû être létale, 3 armes électriques d'un très vieux modèle. Un scanner de la zone a relevé 443 victimes. J'ai enfoui de nouveau ces pauvres restes pour les mettre à l'abri des grumgeurs et du soleil. Prévoir un nombre de corps bien supérieur à celui indiqué. Est-ce un charnier des événements dits du duo des Simtres? L'histoire humaine sur la Lune est encombrée de massacres et de revanches sanglantes. Lieu. 200 mètres au nord de Landsberg P. Coordonnées exactes relevées. Debout face à ce cimetière que rien ne révélait plus, j'ai récité quelques mantras, le Kaddish, Thou Great Redeemer, et d'autres choses un peu au hasard. Celui qui veut voir un mort marcher sur la lune, à Chapez l'enfouit où il s'adonne à l'infortune, etc. Vocaliser dans le vide n'a pas de sens, mais le geste importe à un autre niveau. La pensée de tous ces morts anonymes, dont chaque cervelle renfermait un monde perdu à jamais, m'a profondément navré. Étape 5. Nous passerons devant l'entrée de la cité de Mute au 14e jour du 7e mois. L'autoroute de la mer des îles facilite considérablement ma progression. Nous arriverons avant le lever du soleil et c'est heureux. J'ai tenté de faire partager à mon rover les beautés d'Homère, me souciant assez peu de ce qu'il soit en veille ou en sommeil. Chantons la mort d'Achille. Je lui ai raconté comment les Grecs avaient répandu sur le cadavre d'Achille leur chevelure coupée, puis je lui ai parlé de la mer couleur de vin et des mains dorées de Briseis. Peut-être étais-je fatigué du noir et blanc du ciel, de tout le gris bleu qui nous cernait et dont chaque vague avait l'arrondi oblong d'un cadavre. Je viens de constater que les pipettes d'ADN des chats francitadins, mises de côté pour Trim, avaient été soufflées par l'explosion. Trim va être un peu déçu. Mais l'espoir de rencontrer un jour Vuidette et les siens l'emportera, je suppose. Je l'imagine déjà jouant avec les fils d'or de ses souvenirs entre lesquels dansent des silhouettes de chatons noirs, autant que lui tendre et gracieux. Ses frères rêvés. Les mini-colas se pressent au bord de l'autoroute. Je crois que je me suis habituée à elles. Leurs têtes, qui ondulent dans les vents solaires, captent chacune une mince étincelle saphir, et il me semble qu'elles nous saluent au passage, comme autrefois les blés saluaient les piqueurs de bœuf. Moi qui les considérais comme des adventices, je me résigne à voir en elles l'aube menue de moissons magnifiques. Pourtant, je suis peu tolérante face aux espèces invasives. Qui alors m'a inoculé tant de bonté? Qui avait cette patience, cette parfaite acceptation de l'autre? S'il est qui, bien sûr. C'est peut-être une façon de la faire revivre que d'accueillir une partie de sa vision du monde. Désormais, où que j'aille, elle sera avec moi. Et ainsi, nous ne serons plus séparés. Voilà une sensation étrange de laisser une part de ma psyché à une autre, de me laisser emblaver comme un champ. Mais si Leki était prêteuse. Au royaume du silence où elle repose pour l'éternité, elle doit sourire. Ces mots-là sont de Sophol, et ils sont parfaits pour finir notre voyage.